Bon, voilà. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Cassan, qui s'est porté volontaire pour cette dernière conférence de l'année. Merci à Arnaud. Et Arnaud Cassan est maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Comme je le disais tout à l'heure, nous partageons, nous avons le bureau face à face, donc nous nous voyons très souvent. Et il a effectué de plus sa thèse de doctorat à l'Institut d'astrophysique, à l'IAP également, sur la détection des planètes par la méthode des micro-lentilles. Vous voyez donc que cette conférence ce soir ne sera pas très éloignée de son travail, le travail qu'il a commencé en tant que chercheur. Alors cette thèse, je signale qu'elle a obtenu, avant de signaler, je dis que la valeur n'attend pas le nombre des années, puisqu'il a déjà obtenu le prix du monde de la recherche universitaire. C'est un prix de thèse qui est donné chaque année par le journal Le Monde, et en particulier en s'attachant dans le choix de son prix à des thèses qui sont également accessibles à un public très large. Voilà, et actuellement, Arnaud continue ses recherches, en particulier sur les exoplanètes, comme il va vous l'expliquer en partie, et en particulier en se focalisant sur leurs statistiques. Quand on découvre des exoplanètes, quel type d'exoplanètes on découvre, des grosses, des petites, est-ce qu'elles sont entourées d'une atmosphère ou pas, enfin voilà, quelles sont les fréquences, les masses, voilà le type de thématique sur lequel il est concentré. Et ça m'amène d'ailleurs à noter que sa conférence tombe, vous avez sans doute remarqué. C'est un peu un hasard, mais le hasard fait bien les choses. En même temps que la COP21, puisque Paris a l'honneur d'héberger la COP21, qui, nous l'espérons, réunit les grandes intelligences politiques et scientifiques du moment pour essayer de faire en sorte que qu'on stoppe, si on peut stopper, l'emballement du réchauffement climatique. Et ça nous conduit, je trouve ça intéressant, parce qu'on peut quand même se poser des questions légitimes sur l'habitabilité de la Terre, combien de temps on va pouvoir l'habiter, si on ne va pas un jour être obligé de se poser des questions sur quel est est-ce qu'il est opportun de rester là ou de partir ailleurs. Il y a des chiffres quand même qui sont importants, que j'ai notés. 220 000 habitants par jour, 220 000 personnes de plus par jour sur cette planète. C'est quand même beaucoup, ça fait une grande ville chaque semaine. Donc on voit bien qu'il faut nourrir toutes ces personnes-là, qu'il faut donc se poser des problèmes de limites d'énergie et de pollution. Et on continue de manière assez frénétique à utiliser, piétiner les ressources qui nous sont naturelles, qui nous sont offertes, puisque il a été estimé que les ressources de la Terre rendues par les écosystèmes correspondent à peu près à 35 000 milliards de dollars par an. C'est pas rien, donc c'est un gros budget. Ce sont des grands services importants qui sont naturels, qui sont là gratuits, entre guillemets, et qui contribuent à purifier l'eau, production d'oxygène, etc. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que ces recherches, qui peuvent paraître complètement gratuites, qui effectivement font partie de l'accumulation des connaissances, mais ça s'inscrit quand même dans une problématique à très 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 long terme. Et peut-être que quand on refera l'histoire de l'humanité dans 10 000 ans, 20 000 ans, ben on dira, voilà, on a commencé déjà en 2000, en 1990 même déjà, à se poser les questions des terres habitables. Bon, je vais m'arrêter là, je te donne la parole et je te remercie encore.
Merci Daniel pour ta présentation. Effectivement, donc ma thèse, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'ai soutenu, donc ça fait plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc c'était juste pour préciser, parce que tu parlais du prix de thèse. Alors effectivement, c'est amusant que la COP21 tombe en même temps, parce que bon, le sujet des exoplanètes, évidemment, ça ne parle pas particulièrement des planètes qui sont dans notre système solaire. Ça, c'est plutôt le domaine de la planétologie du système solaire. Mais effectivement, les exoplanètes nous ont beaucoup appris finalement sur notre propre système solaire, sur nos propres planètes, et certainement nous donnent beaucoup de leçons pour penser notre planète et penser un petit peu, peut-être un petit peu le côté peut-être unique. Hein, on verra à la fin de cette conférence, on parlera un petit peu de ça. Regardez finalement, est-ce que vraiment la Terre est spéciale ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose d'assez commun. C'est des questions évidemment importantes que peut nous apprendre l'astronomie quand on pense à notre position sur la Terre. Alors en fait, cette conférence, elle est aussi, il y a deux autres, c'est pas des coïncidences, c'était aussi pour ça que je suis content de la faire cette année, c'est que si vous regardez le titre de cette conférence, donc là, en gros, ce sera la recherche des exoplanètes, premièrement. Donc les exoplanètes, en 2015, ont fêté les 20 ans de la première découverte d'une exoplanète, donc c'est une date anniversaire. Et en même temps, la méthode dont je vais parler un petit peu plus en détail, ce sera la méthode des microlentilles gravitationnelles, qui est basée sur les phénomènes de relativité générale d'Einstein. Et cette année, on fête aussi les 100 ans de cette théorie. Donc c'est un double anniversaire. Les exoplanètes et de cette méthode-là. Donc, je trouvais que c'était une très bonne idée de faire une conférence sur ce thème pour ces conférences en public de l'IAP. Alors, comme justement, c'est un peu les 20 ans d'anniversaire, en 20 ans, on a fait beaucoup de progrès dans les exoplanètes. On a découvert un grand nombre d'exoplanètes maintenant et on a découvert aussi beaucoup de propriétés de ces exoplanètes. Donc, en fait, ce que je vais faire un petit peu dans cette présentation, c'est que je vais essayer un petit peu de faire un peu un bilan aussi de ce qu'on a découvert. Évidemment, je ne pourrais pas aller dans tous les détails puisque le domaine est devenu très foisonnant. Il y aurait énormément de choses à dire. Mais je vais essayer de donner un petit peu comme ça, un petit peu un panorama de ce qui a été découvert pour un peu avec cet anniversaire des 20 ans. Et en parlant un peu plus particulièrement de la méthode des microlentilles. Alors, premier chapitre, on pourrait dire du système solaire aux exoplanètes. Et on va remonter un peu dans le temps. Tout d'abord, évidemment, je vous rappelle un petit peu où on se trouve dans l'univers. Alors, l'univers, on voit, c'est des galaxies. Notre propre galaxie qu'on voit ici, là, donc évidemment, elle est vue par la tranche quand on regarde dans le centre de la Voie lactée. Hein, donc, on observe quelque chose comme ça. C'est une des galaxies de ces 100 milliards, de ces centaines de milliards de galaxies qu'on voit dans l'univers, observables. Donc, on est une de ces galaxies. Et dans cette galaxie, qui est ici, ça c'est une simulation de notre galaxie, qu'on pense qu'elle est aujourd'hui, ben on se situe à peu près par là, c'est-à-dire que là vous avez le centre galactique avec une densité particulièrement forte d'étoiles, et nous on est à peu près à ce niveau-là. Donc en gros, tous les exoplanètes, toutes les planètes en dehors du système solaire qu'on va détecter, en gros elles seront situées dans notre galaxie. Hein, donc on ne peut pas connaître, jusqu'à nouvel ordre peut-être, on ne peut pas connaître s'il y a des exoplanètes dans d'autres galaxies, parce que ces galaxies elles sont beaucoup beaucoup trop lointaines. Donc on va déjà regarder ce qui se passe proche du Soleil et jusque même jusqu'au centre en fait de la galaxie selon avec différentes méthodes. Alors les exoplanètes, évidemment, c'est des planètes. Et les planètes qu'on connaît bien, ben, c'est les planètes du système solaire. Les planètes du système solaire, ben, on les répartit en des groupes un peu spéciaux. Donc d'une part, vous avez ces grosses planètes qu'on appelle les planètes géantes gazeuses, parce qu'elles sont formées essentiellement de gaz. Donc toute la masse, pratiquement plus de 99%, c'est du gaz ici, hydrogène, un petit peu d'hélium. Ensuite, vous avez des planètes qu'on appelle géantes, parce que c'est vrai que par rapport à la Terre, elles sont bien grosses, mais quand même, elles sont quand même beaucoup moins impressionnantes. C'est Neptune et Uranus qui seront des planètes géantes glacées. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez une grande partie de la composition de ces planètes qui sera des glaces, comme de l'eau, du méthane et des choses comme ça, hein, des choses qui sont gazeuses sur Terre, mais qui vont condenser pour fabriquer des choses un petit peu comme des sortes de neige carbonique, si vous voulez, ou de la glace d'eau, des choses comme ça. Donc ces planètes-là, elles sont géantes, mais entre celles-ci, Jupiter fait à peu près 300 fois la masse de la Terre, alors que ces planètes-là qu'on appelle géantes, elles en feront qu'une quinzaine de fois la masse de la Terre. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'une grande différence entre ces planètes-là, même si dans le langage courant, on les appelle les planètes géantes. Les quatre planètes qui sont juste devant, ici, là, c'est des petites planètes qu'on appelle terrestres, souvent. Alors ça, on peut dire tellurique, etc. Le vocabulaire n'est pas forcément très figé. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur comment définir ces planètes exactement. Ben, ces planètes, elles sont beaucoup plus petites. Et surtout, elles n'ont pratiquement pas d'atmosphère, comme on le voit ici, une atmosphère très ténue, hein, ce qui correspond un peu à ce que disait tout à l'heure Daniel. Là. Donc voilà, notre atmosphère, celle qui permet à la vie de rester, ben, elle n'est pratiquement pas visible sur une photo comme ça. Donc essentiellement, ça, c'est des planètes qui sont rocheuses. Hein, ce n'est pas des planètes géantes. Voilà. Ça, c'est un peu les acteurs de ce qu'on va voir. Alors, si on regarde maintenant le portrait de famille du système solaire, donc vous avez, là, les planètes ne sont pas à l'échelle, normalement elles sont disposées plus loin, mais on les a rassemblées pour que ça colle dans la photo. On reviendra tout à l'heure à cette image, à cette photo de famille. Et donc, jusqu'à 1995, c'était le seul système planétaire connu dans l'univers, en fait. Alors, en 1995, on pensait que la configuration du système solaire était quelque chose de totalement typique, c'est-à-dire qu'on comprenait parfaitement pourquoi on avait les petites planètes. Attendez, je vais revenir là. On comprenait complètement pourquoi on avait des petites planètes ici. On comprenait complètement pourquoi on avait des grosses planètes là, ici, et même pourquoi elles devenaient un petit peu plus petites quand on allait plus loin du Soleil. Et on pensait en particulier que ces planètes étaient formées à l'endroit où sur les orbites où on les observe aujourd'hui. Donc, si on veut rappeler un peu, en gros, un système, comment se forme un système planétaire, un schéma très très simple. Donc, vous avez une sorte de gros nuage, comme ça, dans la galaxie, ce qu'on appelle un nuage moléculaire, qui est formé en fait de gaz, beaucoup de gaz, et des poussières, très peu, hein, 1%, quelque chose comme ça. Et en fait, ces poussières, et ce nuage, par gravité, il va se contracter, et en se contractant, ben, la densité va augmenter, la température va augmenter, et on va peut-être pouvoir former comme ça une étoile. Et comme le système est en rotation, ben, il va s'aplatir, hein, comme tout ce qui est en rotation s'aplatit un peu comme une crêpe, comme ça, au bout d'un moment. Et donc, on va pouvoir comme ça former des planètes jusqu'à former un système planétaire. Alors, évidemment, on le dit vu comme ça, ça paraît simple. Évidemment, dans les détails, c'est un peu plus compliqué, mais ce qu'il faut retenir de ce qu'on pensait de la formation planétaire avant la première détection en 1995, c'est que si maintenant je regarde l'étoile et que ce disque-là, je le regarde en coupe, d'accord ? Donc il faut imaginer que là, on regarde, c'est la crêpe aplatie, d'accord ? Et là, on a simplement représenté la partie, une des parties de la crêpe totale, comme ça. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait une sorte de disque, ici. Avec le temps, progressivement, ben, la partie solide va aller d'autant plus dans le disque, va devenir très mince. Donc la partie sombre, c'est les parties dures, c'est-à-dire ce qui va former plus tard les roches, hein, pour simplifier. La partie jaune ici, c'est le gaz, d'accord ? Donc ça fait une sorte de disque comme ça. Et au bout d'un moment, il y a des sortes de gros morceaux qui se forment, des gros rochers. Chacun va grossir et va former des planètes par accrétion, comme ça. Il va former des planètes de plus en plus grosses. Alors, pourquoi on forme comme ça ? On forme des planètes grosses plus loin de l'étoile ? Ben ça, c'est parce que en fait, il y a une distance à l'étoile qu'on appelle la ligne des glaces, au-delà de laquelle, en fait, justement, les glaces, l'eau, etc., va pouvoir condenser. Et donc, si vous êtes trop près de l'étoile, ben, il n'y a que les matériaux solides, hein, pour simplifier, qu'on va pouvoir accrocher, comme des astéroïdes, si vous voulez, pour simplifier. Alors que quand vous vous éloignez de l'étoile, ben, vous avez en plus toute une partie glacée qui va pouvoir venir se coller et former quelque chose de solide, parce que la neige, évidemment, c'est solide, c'est pas gazeux. Et donc, en fait, on estime même que la densité que vous avez entre là et là, il y a un facteur 5. Donc, vous allez facilement pouvoir former comme ça des grosses planètes quand on est loin. Et en plus, celles-là, comme elles seront, vous aurez un cœur plus gros, ben, ça va plus facilement attirer le gaz et donc former finalement des planètes géantes qui ont beaucoup, beaucoup de gaz et qui sont formées même essentiellement de gaz. Donc, on pensait qu'une planète qui était formée ici avec ce mécanisme restait une planète de type Jupiter à cet endroit-là. Et là, évidemment, il était absolument impossible de former une planète géante parce qu'il y a d'abord, il n'y a pas assez de matériaux parce que les orbites sont plus petites. Hein, tout ce qui est accessible, tout le matériau qui est là, eh ben, les orbites sont moins grandes. Donc, on est plus proche, le cercle autour de l'étoile est plus petit. Et quand on s'éloigne, au contraire, il y a un cercle plus grand, donc il y a plus de matériaux disponibles pour fabriquer des grosses planètes. Donc là, il fait trop chaud. Il n'y a pas assez de matériaux et il n'y a pas de glace. Donc vraiment, vous n'avez aucune chance de former une planète géante ici. Mais en 95, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre un objet de masse planétaire, la moitié de Jupiter à peu près, un objet de la moitié de Jupiter, qui se trouve en orbite à une distance très proche d'une étoile comme le Soleil. Cette planète, elle avait des particularités, cet objet planétaire avait des particularités très spéciales, parce que sa masse était de l'ordre de la moitié de Jupiter, j'ai dit, donc une planète géante, mais par contre, sa période orbitale, c'est 4,2 jours. Donc vous imaginez, une planète qui tourne en 4,2 jours autour de son étoile, mais qui est en gros quelque chose comme Jupiter. Donc ça, c'était complètement inattendu, pour tout le monde. Et du point de vue de la formation planétaire, on ne s'attendait surtout pas à trouver ces planètes-là près de l'étoile. Donc là, vous avez donc la vue du système solaire, donc les planètes Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et là, on vous a mis cette détection, vous voyez qu'elle est complètement proche de l'étoile, avec une jolie vue d'artiste ici, évidemment. Et ces planètes-là, on les appelait les Jupiters chauds. Alors évidemment, les premières planètes qu'on a détectées, ce sont des Jupiters chauds, parce qu'elles sont faciles à détecter, parce qu'elles sont proches de l'étoile, elles sont grosses, et donc elles vont être faciles à détecter. Mais pourquoi elles n'ont pas été détectées rapidement? C'est parce qu'on ne s'attendait pas à détecter ces planètes. Les gens s'attendaient à détecter des planètes beaucoup plus loin, donc ils avaient prévu des expériences qui allaient durer des années pour que la planète ait le temps tranquillement de faire ses orbites. Voilà, donc il fallait chercher des périodes de 4,2 jours. Bon. Premier, Jupiter chaud. Alors, cette planète, elle a été détectée en 1995, et il faudra encore des nombreuses années avant que les gens soient convaincus que c'était une planète. Parce que le jour où cette planète a été découverte, eh bien, il y a eu toute une myriade d'astronomes, d'astrophysiciens, qui ont d'un seul coup trouvé des myriades de théories pour expliquer comment une étoile pouvait avoir des pulsations particulières et produire des signaux qui ressemblaient à ça, des signaux périodiques qui ressemblaient à une planète qui tourne autour d'une étoile. Et donc finalement, il aura fallu attendre plusieurs années et plusieurs détections avec d'autres méthodes pour que tout le monde soit convaincu qu'on était capable de détecter des exoplanètes. Les exoplanètes, c'est très très difficile à détecter, et donc les gens ne pensaient pas que si rapidement on en détecterait en fait. Ce qu'a appris cette découverte, c'est que fondamentalement, la planète géante qu'on a découverte, ça, on est sûr qu'elle a dû se former loin de l'étoile. On n'a pas le choix. Ça, c'était correct. Là où on ne s'attendait pas à la découvrir proche de l'étoile. Donc il a fallu quelque part que cette planète elle ait été formée plus loin, et par un système, par un phénomène physique donné, elle se soit progressivement, en tournant autour de l'étoile, elle se soit approchée de l'étoile pour arriver à une distance très proche. Et ça, c'est les théories qu'on a appelées les théories de migration planétaire. Donc quand on parle de migration, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile et progressivement, comme ça, elle va se rapprocher. Donc elle va migrer vers l'étoile. Une des premières idées qu'on a eues, c'est de dire, au moment où la planète se forme, ça c'est donc vu, ça ce serait l'étoile au milieu, là ce serait le disque, cette fois-ci vu du dessus. Là c'est une planète qui est en train de se former. Et cette planète, quand elle se forme, elle n'est pas toute seule. C'est de la matière qui a aggloméré, mais elle est dans un disque de gaz. Et en fait, la planète, elle va interagir avec le gaz. Un petit peu comme un bateau qui se déplace sur l'eau, il forme des vagues, il va former des vagues. Et ces vagues, quand elles sont formées, elles vont aller dans tous les sens, et en particulier, elles vont réinteragir aussi avec le bateau. Donc c'est la même chose, la planète, elle se déplace dans une sorte de fluide, elle produit des vagues, et ces vagues vont interagir avec elle en la poussant dans les deux sens, en la poussant vers l'intérieur, en la poussant vers l'extérieur. Si on fait le bilan de ces vagues, de ces forces qui s'exercent, on se rend compte que la planète, très souvent, elle va migrer vers l'intérieur. Après, évidemment, il y a beaucoup de détails pour expliquer toutes les possibilités de ce genre de migration. Mais en tout cas, vous avez ce mécanisme qui permet à une planète de migrer. Et même, ça permet non seulement d'expliquer la planète 51P qui a été détectée très proche, mais évidemment, ça a obligé les scientifiques à revenir sur le système solaire et en disant que si les planètes migrent ailleurs, c'est qu'elles forcément elles migrent dans le système solaire. Et donc, on a dû revenir sur les théories de formation du système solaire pour prendre en compte cette migration. À tel point que maintenant, dans les théories les plus récentes de formation du système solaire, on est à peu près convaincu que Jupiter s'est approché, a été formé loin, s'est approché du Soleil, Saturne également, et en fait, les deux, après, par d'autres raisons, d'interaction entre planètes, sont repartis dans l'autre sens. Et donc ont énormément changé, ont beaucoup changé finalement la configuration ont beaucoup influé, disons, sur la fabrication du système planétaire, du système solaire. Donc quelque part, on pourrait dire que ça a révolutionné, a révolutionné un peu le monde des planètes, parce que finalement, on a dû revoir notre propre histoire dans le système solaire. Et ça, on peut dire que depuis Copernic, on a une vision du système solaire et qu'elle a été remise en cause par ses découvertes. Donc, moi, j'hésite pas à qualifier ça de révolution. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de mécanismes qui font que les planètes peuvent bouger, migrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur et des choses comme ça. Bon, quelques mots sur l'historique. Donc, si on regarde un petit peu dans les années, en 95, il y a cette fameuse détection de cette fameuse planète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors après, quand on fait l'historique, on trouve toujours des données qu'on réanalyse plus tard et on dit « Ah, il y avait bien une planète dans les données qui avait peut-être été observée il y a 4 ou 5 ans. Hein » Mais évidemment, la découverte, c'est le premier qui a dit « Là, je suis sûr que c'est une planète et je suis prêt à mettre ma main au feu. » Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc on prend un risque en tant que scientifique. Quand on annonce une découverte, on prend un risque, un gros risque en fait. Mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est un risque. Donc voilà, ils ont pris le risque et c'était un risque qui a été couronné de succès. En 92, il y a d'autres objets qui ont été détectés autour d'autres types d'étoiles, des étoiles mortes. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et après, vous voyez les dates pour chacune des méthodes, les premières détections, mais vous voyez que ça s'étend quand même sur 10 ans. Hein, 10 ans, première découverte par les différentes méthodes. Donc ça a été lent, 10 ans, mais rapide par rapport à l'histoire, évidemment, de l'astronomie. Donc, hein. Là, j'ai fait un petit diagramme amusant, où vous voyez ici le nombre de détections par année. Donc ça, c'est l'année de la découverte. En 95, ben, vous avez une détection, donc là, ça fait 1. Et puis chaque année, vous avez le nombre de détections. Donc vous voyez que c'est une fonction, ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pourrait dire que la recherche d'exoplanètes, c'est une recherche presque exponentielle. Enfin, pour l'instant, après, ça se calme, hein, heureusement. Mais disons que ça s'est énormément accéléré en 20 ans. Donc il y a 10 ans, on connaissait beaucoup, beaucoup moins de choses sur les exoplanètes qu'aujourd'hui, 10 ans après. Ça, c'est vraiment intéressant. Si on regarde maintenant, toujours pareil, ici, vous avez l'année de la découverte. Si vous regardez ici, alors chaque point marque une détection, et ici, sur l'axe, vous avez la masse des planètes. Donc, je vous ai mis ici, là, c'est la planète Terre, donc petite planète rocheuse, Neptune, Uranus, ces fameuses géantes glacées, mais qui ne sont quand même pas très massives. Et là, vous avez Jupiter. Ici, on passe de... Ici, attention, l'axe, il est logarithmique, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 0,1 à 0,01, d'accord ? Et donc, ce qu'on remarque, en tout cas, chaque point est une détection, on remarque qu'avec le temps, on détecte des points de plus en plus bas, et ça veut dire qu'on s'approche de plus en plus des petites planètes. Donc, la méthode permet, en s'affinant, les méthodes permettent de détecter des planètes de moins en moins massives, et maintenant, on détecte des planètes qui sont de la taille, de la masse de la Terre, et même un peu moins. Alors, je vais vous parler un peu des techniques de détection. Et essayer, en fait, à chaque fois, comme c'est un peu un anniversaire, c'est les 20 ans, je vais essayer de vous faire un petit panorama à chaque fois, statistique, un petit peu de ce qui est découvert, sans rentrer dans les détails de chacune, parce que ce serait impossible. Et je parlerai un tout petit peu plus de la méthode des microlentilles gravitationnelles, puisque c'est l'anniversaire, cette fois-ci, de la relativité générale. L'idée générale, c'est tout est bon pour détecter des exoplanètes. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas. On peut voir ce qu'on peut faire. Tout ça, c'est des méthodes qui permettent de détecter des exoplanètes. Donc aujourd'hui, on a détecté à peu près 2000 exoplanètes dans à peu près 500 systèmes planétaires. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de systèmes qui contiennent plusieurs planètes. Il y en a même plus que ça, des vrais systèmes multiplanétaires, mais simplement, dans certains systèmes, on est capable de détecter une planète, mais pas forcément toutes les planètes. C'est ça la difficulté. Donc parmi ces méthodes, j'en ai souligné quelques-unes. C'est quelques-unes que je vais présenter un peu en détail. C'est celles qui ont fourni le plus de planètes ou celles qui ont fourni le plus d'informations sur les exoplanètes. Alors ici, par exemple, c'est en anglais, hein, mais c'est Radial Velocity, c'est la méthode des vitesses radiales, celle avec laquelle on a détecté la première exoplanète tout à l'heure. On va parler un petit peu d'astrométrie, de microlentilles, d'imagerie directe, de transit planétaire. Et ça, plutôt historique, le chronométrage des pulsars, parce que quand même, je considère que c'est une découverte historiquement qui est importante, même si c'est des objets qui ne tournent pas autour d'étoiles normales, qui tournent autour d'étoiles mortes. Alors, pour ce qui concerne la méthode des vitesses radiales, donc, c'est aussi pour montrer un peu la diversité. Finalement, si je devais faire en quelques mots, quel est l'intérêt vraiment de toutes ces méthodes, c'est qu'en fait, la science exoplanète, c'est une sorte de puzzle. Et chaque méthode va vous donner une vue particulière sur une partie du puzzle. Et après, avec tous ces bouts, des fois, qui sont très durs à mettre ensemble, et bien, vous allez essayer d'avoir une vision globale, un panorama global, pour essayer de comprendre les grandes lignes de comment les planètes se sont formées et les grandes propriétés des exoplanètes. Donc il faut toutes ces méthodes pour pouvoir avoir une vue, pas complète, mais disons une vue qui explore tous les aspects possibles. Donc la première méthode, c'est la méthode, une des premières méthodes, c'est la méthode des vitesses radiales. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez une étoile, donc ça c'est l'étoile à deux moments différents. Vous avez une planète qui tourne autour de l'étoile, donc imaginons que cette planète tourne autour de cette étoile. En réalité, quand vous avez un système de deux objets, les deux objets ne tournent pas autour d'un des deux objets, mais ils tournent autour du centre de gravité qui est à peu près situé entre les deux, plutôt du côté du gros objet. Donc souvent on dit que les planètes tournent autour du Soleil parce que les planètes sont tellement faibles que le Soleil, lui, il est pratiquement en fixe. Mais si on prend une grosse planète à côté d'une étoile, une grosse planète, et bien en fait le Soleil va tourner autour du centre de gravité. Donc si je prends les deux objets, ça ferait quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on a représenté, c'est le mouvement de l'étoile à deux moments différents quand la planète tourne autour. Souvent, on ne montre pas comme ça. Souvent, on ne regarde que le mouvement des planètes. Là, on va regarder le mouvement de l'étoile. Alors, l'avantage, c'est que l'étoile, elle est facilement visible, puisque c'est brillant. La planète, elle est très, très faible. Et on essaie de regarder le spectre de cette étoile, ici. Donc, l'étoile produit un spectre lumineux, une sorte de d'arc-en-ciel. Et en fait, grâce à l'effet Doppler qui est ici, alors qu'est-ce que c'est l'effet Doppler? Ben, c'est quand une sirène, quand une ambulance vient vers vous, elle a un son aigu et quand elle s'en va, elle a un son grave. Là, ça marche parce que c'est une onde, le son est une onde, et ben, la lumière c'est aussi une onde, donc elle va subir le même effet. Et donc chacune des radiations de la planète va être déplacée vers des fréquences grandes et des fréquences petites régulièrement. Et donc si vous êtes en mesure de calibrer sur Terre la position de certaines raies dans ce spectre très particulière, ben vous allez pouvoir mesurer de combien le spectre s'est déplacé vers les fréquences plus ou moins grandes, comme ça, périodiquement, quand l'étoile tourne. Et quelques calculs, vous pouvez retrouver, finalement, quel était le mouvement de cette étoile. Et donc, c'est comme ça que vous mesurez une vitesse radiale à partir d'un effet Doppler. Donc là, je vous montre un exemple, parce que c'est toujours intéressant. Là, vous avez un système où il y a trois planètes Neptune qui ont été découvertes autour d'une étoile. Et vous voyez que les courbes sont quand même un peu plus compliquées que ce que je vous ai montré, puisque chaque planète va faire son propre effet sur l'étoile et qu'à la fin, ça fait des choses assez complexes. Et donc, voilà, on arrive quand même à dire qu'on a trouvé la bonne configuration pour expliquer cette courbe, aussi complexe soit-elle. Voilà. Donc là, vous avez un cas assez, assez joli qui date un petit peu de quelques années, mais qui est très, très joli. Donc, c'est le trident de Neptune, évidemment, il y a un jeu de mots que j'aime bien aussi. Alors, donc comme je vous ai promis, on va regarder un petit peu ce qui se passe, un petit peu au niveau des détections, un peu de façon statistique. Alors, là, ce que je vous ai fait, c'est qu'il y en aura quelques-uns comme ça, pour chaque méthode. J'ai tracé un diagramme, ici, où sur l'axe horizontal, j'ai mis la distance entre la planète et l'étoile. Donc là, c'est 10 puissance 0, ça fait 1, c'est une unité logarithmique. Donc ça, c'est 1, ça veut dire que ce trait rouge en pointillé, c'est une fois la distance Terre-Soleil. Donc si le E que vous voyez là, c'est la Terre en fait. Donc la Terre est bien située à une unité astronomique de la Terre. Et sur l'axe vertical, j'ai mis la masse de l'exoplanète. Et le trait qui est horizontal qui est là, ben, c'est une fois la masse de la Terre. D'accord ? Donc la Terre est située ici. Les autres, là vous avez J, c'est Jupiter. Là vous avez Saturne. Donc les planètes géantes, vous voyez qu'elles sont situées à grande masse. Jupiter, c'est 318 fois la masse de la Terre, donc elle est à peu près à 318, là c'est 100, là c'est 1000, là c'est 10 000. Un peu moins massif, c'est les planètes Uranus et Neptune, à peu près ici. Voilà. Et donc on regarde comment les planètes se mettent dans ce diagramme. Alors les planètes que je vous montre là, c'est les planètes découvertes par la méthode dont on vient de parler, la méthode des vitesses radiales. On se rend compte qu'elles sont situées à peu près comme ça. Et là, il y a en particulier les Jupiters chauds, celles les premières planètes qui ont été détectées, les Jupiters chauds. Et bien, ce sont des planètes qui sont situées très proches de l'étoile. Donc vous voyez que ça va être des planètes qui vont être plutôt par là. D'accord ? Ça, c'est très très proche de l'étoile. Ça, c'est un centième de la distance entre la Terre et le Soleil, donc très proche de l'étoile. Et en même temps, de la masse plutôt de Jupiter, ou très massive. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est des populations de Jupiter chaud qui sont là. Et donc, on en détecte quand même quelques-unes, qu'on en détecte pas mal. Là, on va détecter beaucoup de planètes. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus nombreuses ? On y reviendra un petit peu à la fin de cet exposé. Ben, en fait, on ne sait pas, parce que celles-là, on voit bien qu'elles vont être faciles à découvrir, puisqu'elles sont, elles ont beaucoup de masse, et donc l'étoile va beaucoup bouger avec la méthode des vitesses radiales. D'accord ? Donc ça, elles seront faciles à détecter. Donc elles seront en surnombre en détection, parce que c'est facile. Alors que plus on s'approche des planètes qui sont peu massives, donc plus on descend finalement, et plus elles sont dures à détecter. Donc des fois, on voit bien qu'il y a peut-être beaucoup de planètes, mais on sait juste qu'on ne les détecte pas. Elles sont trop petites. Si on fait maintenant, si on regarde et qu'on trace une droite un petit peu comme je le fais avec mon laser, comme ça, et bien tout ce qui est de ce côté-là, de cette droite, et bien en fait, ça correspond à une sensibilité de la méthode qui est trop faible. Et donc on ne peut pas détecter tout ce qui est en dessous, en gros, d'une droite que je trace comme ça. D'accord ? Tout ça, ce n'est pas détectable. Pourquoi ? Parce que la limite de détection qu'on a actuellement avec cette méthode, quand on fait des observations pendant longtemps, on peut arriver jusqu'à quelque chose comme 10 cm par seconde. Donc ça veut dire que votre étoile, elle bouge, et vous êtes capable de dire à 10 cm par seconde près de combien elle a bougé dans un sens et dans l'autre. Hein, 10 cm par seconde, c'est que vous faites 0, 1, et voilà, ça vous donne la vitesse de mouvement de l'étoile. C'est extraordinaire. Évidemment, il faut beaucoup, beaucoup de données, et particulièrement, c'est une sensibilité limite avec beaucoup de points de mesure. Hein, on est d'accord. Mais c'est assez extraordinaire. Donc là, bah, si vous descendez en dessous de ça, bah, vous ne pouvez pas détecter les planètes. Donc voilà, première méthode, elle va remplir, en gros, elle va remplir cette partie du diagramme. Alors peut-être que s'il y a des trous, ça veut peut-être dire qu'il y a moins de planètes. Hein, donc il va falloir démêler tout ça. Alors, pour l'instant, on va passer à une autre méthode, la méthode des transits. Donc la méthode des transits, c'est assez simple, c'est quoi ? C'est une planète qui passe devant et qui va obscurcir pendant son passage une partie du disque de l'étoile. Donc, tant que la planète elle est ici, ben, l'étoile ne la voit. C'est une étoile qui, enfin, lumineuse. Quand la planète passe devant, ça fait de l'ombre et donc, hop, on a moins comme ça de luminosité. Et donc, en faisant ça, on peut trouver des planètes. Donc, ça, j'ai une petite animation. La baisse de luminosité, j'ai oublié de dire qu'à laquelle on s'attend, c'est à peu près de 1% si ça c'est une planète de Jupiter, donc vraiment à grand rayon. Par contre, si c'est une planète de la type de la Terre, vous attendez à peu près à 0,01%. Donc là, il va falloir être très très précis et il va falloir accumuler beaucoup beaucoup d'observations pour qu'à la fin, vous puissiez statistiquement dire que vous avez eu cette baisse de luminosité. Donc là, vous voyez une animation du transit. Il y a plein de petits détails qu'on peut voir, mais disons que ça, c'est la méthode, la partie de base de la méthode. Mais en fait, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient être extraites de cette méthode. Parce que quand vous avez la planète qui passe devant, ben ça, on va appeler ça le fameux transit. D'accord ? Mais quand la planète continue son chemin, ben vous voyez qu'il y a une partie de la planète, ici, qui est éclairée par l'étoile. Donc elle va vous réfléchir une partie de l'étoile. Et donc la luminosité totale, ça va être la luminosité de l'étoile plus une partie réfléchie, même si c'est faible. Hein ? Et donc si on regarde ici, vous voyez, en fonction du temps, on fait le tour. Là, quand la planète fait le tour, ben nous, on fait le tour comme ça, on fait le tour comme ça. Et là, on a mis l'intensité lumineuse. Plus c'est haut, plus c'est brillant, évidemment, et quand ça descend, c'est qu'il y a moins de luminosité. Ben vous voyez que là, ça augmente progressivement, parce qu'on voit de plus en plus la planète, la lumière réfléchie par la planète. Et là, paf, on descend, parce que là, on avait beaucoup de luminosité, et d'un seul coup, elle disparaît complètement. Et donc, vous avez une occultation. Et donc, on peut espérer avoir tout un tas d'informations supplémentaires sur ce qui se passe. J'en redirai deux mots tout à l'heure. Alors, si on regarde maintenant... Ah oui, mais il y a beaucoup de cas délicats, en fait, avec cette méthode. C'est-à-dire que si vous observez quelque chose comme ça, ce n'est pas forcément un transit. Donc, dans les premières expériences où les gens pensaient découvrir des transits, en fait, ils étaient très optimistes. Et ils pensaient qu'il suffisait d'observer cette espèce de petite baisse de luminosité pour avoir observé une planète. En réalité, ce n'est pas le cas du tout, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent vous faire croire que c'est un transit, mais que ce n'en est pas. Je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais vous montrer par exemple le premier cas. Donc imaginez que dans ce premier cas, vous ayez une étoile, et qu'au lieu que ce soit une planète comme ça qui passe devant, ben, ce soit une autre étoile, mais une petite étoile, une étoile naine rouge, donc c'est vraiment tout petit. Mais elle va, en plus, elle ne va pas passer devant, mais elle va passer que devant une petite partie de l'étoile. Dans ces cas-là, elle ne va pas occulter tout, ce n'est pas sa surface complète qui va occulter l'étoile, mais seulement une partie. Donc là, vous vous attendez à avoir une baisse de luminosité, mais qui correspond en gros à la surface qui va être interceptée ici. Et donc peut-être un creux qui sera de la même taille que si c'était une exoplanète qui passerait devant complètement. Et donc là, vous vous êtes trompé, ça s'appelle un faux positif. Vous pensez avoir détecté une planète alors que c'était une étoile double. Donc en général, il faut utiliser d'autres techniques pour bien vérifier que là, ce n'était pas une étoile qui passe devant. Et ce cas-là est assez simple, en fait, assez simple à se débarrasser, parce que dans ce cas-là, vous avez deux étoiles qui bougent, et donc les spectres de deux étoiles vont bouger différemment, et vous êtes en mesure, dans ces cas-là, en particulier en détectant, en faisant une mesure de cet objet avec des vitesses radiales, de dire clairement que c'était une étoile et que ce n'était pas une planète. Vous avez, je prends, si vous voulez, un dernier cas. Ah oui, un cas intéressant, c'est celui-là. C'est que des fois, vous avez, en fait, les objets comme les petites étoiles ou les naines brunes, qui sont des étoiles ratées, eh bien, en fait, il faut savoir que tous ces objets, ils ont à peu près la même taille que Jupiter. Parce que il se trouve que quand vous augmentez la masse, vous augmentez plus le rayon pour ces objets-là. C'est la physique qui veut ça, c'est assez curieux. Donc vous avez des étoiles qui sont à peine plus gros que des naines brunes, qui sont à peine plus gros que des Jupiters. Et donc vous pouvez penser que c'est un Jupiter alors que c'est une naine brune, en fait. Donc il faut vraiment mesurer la masse. Si vous mesurez que le rayon, ben, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, il y a des problèmes comme ça. Et puis, ben, dans certains cas, vous avez un vrai transit, mais peut-être... Pardon. Dans certains cas, vous avez un gros objet qui passe devant, mais vous avez une étoile d'arrière-fond qu'on n'a pas vue. En fait, on ne sait pas qu'elle existe, mais elle est là. Dans ce cas-là, eh ben, en fait, vous avez la baisse de luminosité relative. En fait, elle va être diminuée parce que vous avez plus de luminosité au début. Donc, vous allez avoir un certain pourcentage de baisse par rapport à cette étoile, mais comme vous avez une étoile en plus derrière, le pourcentage apparent il sera plus faible, en fait. Donc là, vous êtes trompé, vous pensez avoir une planète, ce n'est pas une planète. Finalement, il y a un certain, pour tous ces objets qu'on détecte qui ressemblent à des transits, il y en a assez peu qui sont des transits. Hein, donc il faut observer beaucoup, beaucoup d'étoiles et surtout les observer avec d'autres méthodes pour être sûr que c'est bien des transits. Alors, juste un petit peu pour l'histoire, en février 2014, il y a 800 planètes qui ont été détectées d'un coup par ce satellite américain de la NASA, le satellite Kepler, et d'un seul coup. Alors que d'habitude, les planètes, elles arrivent plutôt au compte-gouttes, on pourrait dire. Alors en fait, ces planètes, j'en dis un mot parce qu'elles sont intéressantes, c'est des systèmes multiplanétaires. Donc l'idée qu'il y a là-dedans, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que on n'était jamais sûr quand on avait un transit que c'était une planète, des fois ça pouvait être autre chose. Mais quand vous avez deux transits ou plus autour d'une étoile, la probabilité que vous ayez deux fausses alertes, deux faux positifs sur une même étoile devient très faible. Parce que pour le coup, là, il n'y a guère qu'un système planétaire qui peut produire ça. Et dans ces cas-là, pour ces systèmes multiplanétaires, sans même avoir besoin d'autres types d'observations, vous êtes capable de dire que c'était bien des planètes. Ou en tout cas, que la probabilité que ce ne soit pas une planète est extrêmement faible. Vous voyez ? Donc en fait, il y a plein de façons après de contourner tous ces problèmes. On peut utiliser le fait que les planètes, quand elles tournent autour d'une étoile et qu'il y en a plusieurs, elles interagissent entre elles. Et donc même si elles sont pas, des fois, elles transitent pas à l'étoile, vous êtes capable de dire que là, il y avait une planète parce que le mouvement de la planète qui transite, elle, a été perturbé par autre chose. Et vous êtes des fois capable de dire par quoi ça a été perturbé. Et même, on peut aller plus loin en disant qu'actuellement, cette méthode de perturbation, c'est celle qui donne les masses les plus précises. Donc, et ça, c'est assez récent. Hein, ça fait vraiment peut-être quelques années encore, peut-être 2-3 ans maximum, que ces choses-là arrivent sur le marché, si je puis me permettre de dire. Alors, toujours pareil, on regarde ces transits, on regarde un petit peu comment ils peuplent le diagramme. Donc, je vous rappelle ici, ça, c'est la distance Terre-Soleil, une unité astronomique. Ça, c'est la masse de la Terre. Là, c'est les planètes massives qui sont situées proches. Et ça, c'est les planètes massives qui sont situées loin. D'accord ? Eh bien, vous remarquez que toutes ces planètes détectées par transit, la plupart, elles sont très proches de l'étoile. Alors, pourquoi elles sont proches de l'étoile ? Ce n'est pas parce que les planètes-là n'existent pas. Encore une fois, c'est une question qu'elles sont faciles à détecter. Et pour ça, il y a une raison simple. Imaginez que vous ayez le Soleil, l'étoile qui soit comme ça, et que vous ayez un petit objet qui passe devant. Si l'objet, il est loin, la probabilité que... Alors, je ne vais pas faire pour tout le monde, mais la probabilité que cet objet soit exactement aligné avec vous est assez faible. D'accord ? Si je me mets là, je fais un petit peu ça. Ça y est, vous ne le voyez plus, ça ne passe plus devant. Par contre, si je me rapproche, eh bien, là, vous avez une beaucoup plus grande latitude d'angle, si je fais ça ou ça, pour que vous la voir passer devant. Vous pourrez faire ça chez vous. Parce que moi, c'est un peu difficile pour moi. Mais c'est pour ça que fondamentalement, cette méthode va détecter des planètes qui sont très proches de l'étoile. C'est vraiment il y a un aspect géométrique fondamental et dedans. Une probabilité que vous ayez un transit alors que l'étoile, la planète est loin, ça est très faible. Donc c'est vraiment lié au diamètre pour le coup de l'étoile, l'orbite par rapport au diamètre de l'étoile. Et donc ça, vous avez clairement, donc maintenant je peux utiliser le mot, un biais de détection. On va essayer de caractériser les biais de détection pour dire attention, on en observe beaucoup ici, mais c'est parce qu'on simplement ne sait pas les détecter là. Et là, si on était très naïf, on dirait, ah ben là, il y a des planètes de la masse de Jupiter, vous voyez, à peu près en deçà de l'orbite de Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, on pensait déjà que c'était vraiment très proche. Bah, pas du tout, regardez. Vous avez toute une population de planètes de type Jupiter, voire beaucoup plus massives que Jupiter, qui sont à ces distances-là. Ça, c'était quand même pas prévu. Alors, donc, le problème, c'est effectivement de savoir est-ce que ces planètes sont abondantes ou pas. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, je ne m'avance pas plus. Voilà. Donc, vous voyez que pour l'instant, on n'explore pas les mêmes domaines dans le diagramme masse et distance. Une autre technique importante, c'est la technique qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent, c'est la technique d'imagerie directe. Alors là, l'idée est simple, hein, on va prendre une photo d'une exoplanète. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Bah, il faut des grands télescopes pour avoir beaucoup de lumière, parce que les planètes, ce n'est vraiment pas très brillant. Il faut des systèmes d'optique adaptative pour pouvoir viser une planète sans qu'elle bouge dans tous les sens. Sinon, son flux va être réparti sur plein d'endroits dans le CCD et vous aurez une lumière très diluée. Et donc, vous n'arriverez pas à détecter. Il faut quoi ? Ben, des masques et des coronographes, parce qu'on ne se contente pas de prendre un bon télescope qui focalise bien, mais on va mettre des masques avec des formes particulières. On va mettre des systèmes d'interférence qui vont agir sur la lumière en tant qu'onde. Et donc, vous savez que les interférences, ça additionne ou ça soustrait la lumière. Et l'idée générale, c'est que vous avez une étoile, ici, qui produit beaucoup de lumière, et celle-là ne nous intéresse pas, parce qu'elle est visible. Nous, ce qu'on veut détecter, c'est le petit point ici, qui est dû à la planète. Donc, grâce à ces systèmes de coronographes qui utilisent les interférences lumineuses, ben, vous êtes en mesure, pour tout le flux qui arrive de l'étoile, de faire en sorte que toutes les ondes lumineuses s'annulent exactement pour cet objet qui est exactement au centre de votre observation. Hein, donc, ce n'est pas simplement mettre un masque devant, mais c'est vraiment utiliser vraiment l'onde. Alors, ça, c'est des choses très récentes, et du point de vue technologique, évidemment, c'est la très haute technologie. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des télescopes qui sont construits et des instruments spécialement pour les exoplanètes. Donc, ça, c'est bien aussi un gros progrès technologique. Donc, une étoile, quand vous l'observez, elle n'est pas ronde, évidemment, elle fait plein de ronds supplémentaires, hein, qui sont dus à la diffraction. Vous n'avez jamais d'objet parfaitement piqué, vous avez toujours un pic central et plein de petits rebonds comme ça qui sont dus à au phénomène de diffraction, hein, d'une onde lumineuse, on n'y peut rien. C'est comme quand vous regardez la lumière à travers un rideau, vous voyez cette lumière qui est un petit peu diffractée, comme ça fait comme des croix, si vous avez déjà remarqué ça. Et donc, voilà, on utilise vraiment la partie interférence lumineuse. Alors, juste parce que ça c'est important, quels sont les deux grands problèmes majeurs qu'on a pour faire la photo des exoplanètes? La première, évidemment, c'est que la séparation angulaire entre l'étoile et la planète est très très faible. Elles sont très proches l'une de l'autre et donc on a du mal à séparer justement cette étoile de la planète. Alors là, c'est des choses qui vous disent, des chiffres qui vous disent pas grand-chose, mais il faut juste se rappeler que ça, c'est des secondes d'arc. Il faut savoir que quand vous observez une image astronomique, en gros, la résolution, souvent, hein, le pixel, pour simplifier, c'est de l'ordre de la fraction de la seconde d'arc pour les grands télescopes, hein, vraiment grands télescopes. Donc, dès que vous descendez en dessous de cette fraction de seconde d'arc, eh ben, vous êtes dans des domaines où, avec un télescope normal, vous pouvez, hein, si vous avez un télescope chez vous ou un gros télescope, sans ces fameux systèmes d'optique adaptative et sans ces fameux systèmes de coronographe, ben, vous voyez, tout est mélangé dans une seule tâche et vous ne pouvez pas distinguer la planète. Donc là, ça vous dit que ça, c'est des millièmes de seconde d'arc, là. Et donc, vous voyez la difficulté à détecter. Le deuxième grand problème, c'est le contraste très fort entre la lumière qui vient de la planète, qui est très faible, et la lumière qui vient de l'étoile, qui est très grande. Donc ici, sans rentrer dans le détail, là, j'ai mis un spectre lumineux, du rouge au bleu. Donc ça, c'est les radiations qui sont à grande longueur d'onde, ça c'est des radiations à faible longueur d'onde. D'accord ? Et en fait, ça c'est l'émission lumineuse d'une étoile, l'émission lumineuse que j'ai mis là. Donc quand on a une étoile normale, on se rend compte que l'émission lumineuse toujours a un sort de pic, et dans le cas du Soleil, ça pique à peu près vers le jaune, vers le vert, par là. Hein, c'est pour ça que l'œil est particulièrement sensible au jaune. Et après, ça redescend. Donc vous avez moins d'émissions dans le violet et dans l'infrarouge, disons, que dans le... Que, ça, c'est le spectre lumineux. Alors là, vous voyez que ce n'est pas un vrai spectre lumineux. Hein. D'accord ? C'est juste pour dire que là, c'est vers le rouge, là, c'est vers le bleu. Parce que là, vous avez la vraie position du spectre lumineux ici. D'accord ? Et donc, vous voyez que si on regarde maintenant la planète, ça, c'est l'émission cette fois-ci. Ça, c'est, pardon. Ça va être... Alors, je vais prendre, par exemple, cette planète, la planète Jupiter. D'accord ? C'est une planète, donc si, la lumière qu'elle émet, c'est la lumière... je crois que je me suis trompé complètement dans le... Peut-être vous l'avez remarqué, je l'ai mis à l'envers. Je m'en aperçois maintenant, désolé. Le sens, c'est bien comme ça, hein, sinon ça aurait été complètement absurde. D'accord ? Donc ça, c'est inversé. Voilà, hein, d'accord. Ok. Donc du coup, si on regarde l'émission de la planète Jupiter... La planète Jupiter, eh ben, comme c'est un corps qui est chaud, il va émettre dans l'infrarouge. D'accord ? Il ne va pas émettre dans le visible, a priori. Donc, en gros, ça va correspondre à une bosse comme ça, qui est celle-là. Donc, si on regarde dans l'infrarouge, donc hein, c'est infrarouge, on se rend compte que finalement, comme ça fait une bosse ici, vous avez un certain contraste entre la lumière qui vient du sol, de l'étoile, et la lumière qui vient de la planète, c'est-à-dire lumière dans infrarouge, hein, radiation infrarouge, et là, vous avez un facteur à peu près 100 000. 100 000. Si on regardait cette courbe d'émission de la lumière thermique de la planète, juste parce qu'elle a une certaine chaleur, donc elle émet un rayonnement infrarouge, ben en fait, on obtiendrait quelque chose qui descend comme ça, très fortement, et si on voulait regarder dans des longueurs d'onde un peu visibles, c'est-à-dire dans un spectre lumineux, c'est-à-dire visible à œil nu, eh bien, en fait, cette courbe, elle descendrait tellement fort que là, ce serait impossible pratiquement de la détecter. Mais, coup de chance, enfin pas coup de chance, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, la planète géante, les planètes, elles ont des atmosphères, et les atmosphères réfléchissent par albédo, réfléchissent une partie de la lumière. Donc, vous allez avoir une partie de la lumière qui vient du soleil, qui vient de l'étoile, qui va se réfléchir sur la planète, et vous pouvez espérer détecter la lumière réfléchie par la planète. D'accord ? Donc l'étoile éclaire la planète vous renvoie la lumière, et donc en fait, le spectre, c'est-à-dire l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde que vous allez observer, ben, ça va être le même que l'étoile, vous voyez, c'est la même chose, mais cette fois-ci en plus bas, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une partie qui est réfléchie. Et là, dans ces cas-là, vous obtenez des facteurs de très très élevés, 10 puissance 9, mais qui ne sont pas complètement fous, alors que là, vous seriez dans des facteurs complètement fous s'il n'y avait que l'émission thermique. Donc ça, c'est un coup de chance. L'avantage, c'est que si on observe ces objets aussi dans le visible, on va pouvoir dire quelle est la couverture nuageuse de la planète. Et donc avoir une idée sur l'albédo, la partie réfléchie et sa couverture nuageuse, etc. Et ça, on peut le faire. On le fait. Dans certains cas, on arrive à savoir s'il y a des nuages dans la planète comme ça. En tout cas, vous voyez, le facteur, ils sont toujours très grands. Hein, c'est ça qu'il faut vaincre. Donc là, moi, j'ai mis des détections. Vous voyez, l'idée, c'est que l'étoile est très brillante là. Ici, là, donc là, c'est une image qui date de 2008. Maintenant, c'est dommage, je pensais que je l'avais mise, mais ce n'est pas la bonne, en fait. Là, parce que celle-là est importante, vous voyez quatre planètes, ici, autour de cette étoile. Et maintenant, avec les techniques modernes, ici, ce serait tout bleu. La planète, l'étoile centrale qui est là, eh bien, elle serait complètement annulée par les techniques modernes actuellement de coronographes et de masques. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, cette fameuse planète autour de Fomalhaut-Bé, eh ben en fait, pour l'instant, elle n'est pas confirmée, c'est probablement pas une planète. C'est des astéroïdes qui peuvent se taper l'un sur l'autre, et comme ça, c'est de la lumière infrarouge, ben si vous avez deux corps qui se tapent dessus et que ça fait fondre en partie, le temps que le rayonnement, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, vous n'avez pas de convection, donc il faut que ça s'évacue la lumière uniquement par rayonnement, ça peut prendre un certain temps, et ça peut comme ça faire des petits points lumineux, chauds, et qu'on pense que qu'on peut prendre pour des planètes. Pour l'instant, celle-là, ce n'est pas une planète. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc là, vous oubliez ces points-là, mais en gros, on détecte des planètes qui sont plutôt loin, parce qu'il faut qu'elles soient séparées suffisamment, et qui sont plutôt très massives, vous voyez, largement au-dessus de Jupiter. Donc ces planètes, ça va être des super Jupiter, plus gros que Jupiter. Et en fait, des fois, on n'est pas capable de savoir si c'est quand même, c'est peut-être des naines brunes, en fait. De temps en temps, on n'est pas complètement sûr. Parce qu'en fait, on essaie de trouver, c'est des planètes qui sont jeunes. Quand elles sont jeunes, elles sont très brillantes, et avec le temps, elles deviennent de moins en moins brillantes jusqu'à arriver à une luminosité qui est à peu près constante. Donc Jupiter, elle est vieille, donc elle a une luminosité constante, mais dans les premiers millions d'années, les planètes sont beaucoup, beaucoup plus chaudes avant qu'elles évacuent leur chaleur. Et donc, il va falloir déterminer leur masse à partir de ce qu'elles émettent comme lumière. Il faut connaître son âge, parce que ça change. Donc là, vous avez des modèles derrière ça. Donc des fois, on n'est pas complètement sûr que les modèles fonctionnent parce qu'il y a plein d'ingrédients qui rentrent dedans. Est-ce que la planète s'est formée d'un coup? Est-ce qu'elle s'est formée doucement? Et donc là, vous avez plus ou moins d'énergie qui a été retenue. Et dans ces cas-là, ben, vous avez pas, pour un âge donné, vous n'avez pas forcément les mêmes luminosités, des choses comme ça. Donc c'est difficile d'estimer la masse uniquement à partir de cette lumière qu'elle émet, parce que ce sont des planètes jeunes. En deux mots, la technique, une des techniques de chronométrage des pulsars, donc ces fameux objets détectés en 92, trois objets de masse planétaire, dont un à peu près la masse de la Lune, donc très faible, et ça a été détecté autour d'un pulsar, donc c'était cette espèce d'étoile morte là, donc il y a eu une étoile a explosé, elle a perdu son atmosphère, on a eu un cœur très, très 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 compact qui s'est formé, une étoile avec une étoile à neutrons. Et cet axe magnétique qui envoie donc des rayonnements et qui de temps en temps touche la Terre, hein, donc ça fait comme ça des sortes de signaux très réguliers. Et si cet objet est perturbé par une planète, et ben il va bouger un peu et vous aurez une petite perturbation de l'arrivée des tops qui va vous permettre de dire là il y avait une planète, il y avait des planètes. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces planètes, elles ont survécu au cataclysme? Par exemple, ça pourrait être des cœurs solides de planètes géantes. Une planète géante aurait été soufflée complètement, son atmosphère, il resterait la partie solide. Est-ce que tout a été soufflé et qu'il restait une sorte de disque de débris qui se sont re-agglutinés pour fabriquer ces objets? En question. Il y a quand même quelques choses qui sont un petit peu intéressantes, c'est qu'en fait, il y a deux de ces planètes sont en orbite résonante, c'est-à-dire qu'il y en a une qui fait trois tours pendant que l'autre fait deux tours, hein, et cette dynamique-là, et en plus, elles sont dans le même plan. Donc il y a quand même des choses assez troublantes là-dedans, hein, qui nous disent que c'est pas formé n'importe comment, il y a eu un processus de formation. Donc, il y a très peu de découvertes, donc c'est pas évident de dire beaucoup de choses sur ces planètes-là, mais on peut chercher des planètes autour d'étoiles mortes, hein, il y a des naines blanches aussi. Donc là, je ne vais pas insister là-dessus. La technique astrométrique, là, j'ai qu'un transparent, mais c'est pour dire que cette technique... Donc l'étoile, tout à l'heure, dans la vitesse radiale, elle faisait comme ça, d'accord? Donc vous essayez de regarder avec le spectre si elle venait vers vous ou elle repartait. Ben là, vous essayez d'observer directement l'étoile, d'accord? Donc la planète tourne autour, l'étoile va tourner un peu comme ça, et vous allez essayer d'observer dans le plan du ciel vraiment le mouvement de l'étoile. Ça donne des mouvements très complexes, hein, parce que depuis la Terre, les étoiles déjà bougent par rapport à la galaxie, etc. Donc ça fait plein de mouvements complexes. Quand on enlève tous ces mouvements connus, on essaie de regarder s'il y a un petit mouvement supplémentaire qui est dû à une planète qui tourne autour. Donc là, il y a un satellite Gaïa qui est parti faire de l'astrométrie de très grande précision. Il y a deux ans, je crois. Ouais. Peut-être deux ans, probablement, 2013, il me semble. Et donc, il devrait détecter beaucoup de planètes. Et l'avantage, c'est que, comme dans ces cas-là, l'étoile doit beaucoup bouger pour les voir, et bien, si vous avez des planètes très distantes, le centre de gravité va être d'autant plus distant de l'étoile, et donc l'étoile va faire des grands mouvements. Et donc, on va s'attendre à détecter des planètes qui sont très loin des étoiles, et donc à compléter encore ce fameux diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Il va falloir attendre encore un petit peu que les données soient analysées et soient récoltées aussi. Donc si on regarde la précision, donc ça c'était Hipparcos, donc ça c'est à l'œil nu, voilà. En gros, précision des étoiles, Tycho Brahe. Et là, bon, on descend et voilà, le satellite Gaïa va faire des... Ça, c'est en fonction du temps, hein, c'est l'histoire. Là, c'est la précision astrométrique, la précision comme ça, là, la précision devient de mieux en mieux. Et donc on voit bien que là, on arrive, grâce à la technologie, à des choses absolument extraordinaires. Voilà. Donc j'en viens... la technique des micro-lentilles gravitationnelles, qui est la dernière méthode que je vais vous présenter. Et donc, c'est celle qui est donc à l'honneur avec les 100 ans de la relativité générale. Alors, dans cette méthode, en fait, vous avez, là, j'ai dessiné encore une fois la galaxie. Vous avez la galaxie comme ça. Enfin, c'est pas moi qui dessine, hein, c'est l'Agence spatiale européenne. Bon. Donc, ici, vous avez le centre galactique. Et là, vous avez le soleil. Et en fait, l'idée générale de cette méthode, c'est que vous allez essayer de voir des objets qui traversent la ligne de visée entre l'observateur ici, là, c'est nous, et une étoile qui est dans le centre galactique. Voilà. Donc, si par hasard, vous avez un alignement qui est relativement bon, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la galaxie, mais cette fois-ci, je l'ai mis dans l'autre sens. On la regarde vraiment par la tranche. Donc là, vous avez, ça, c'est l'observateur. Là, vous avez une étoile de fond, et là, vous avez une étoile qui passe dans la ligne de visée. Et ce qui se passe dans ce cas-là, ben, c'est que vous avez le phénomène de la relativité générale qui fait que des rayons lumineux qui passent à proximité d'une masse ne peuvent pas continuer tout droit, ils sont déformés, ils sont déviés, hein, parce que l'espace-temps va être déformé autour de la masse. Et donc, au lieu d'aller tout droit, les rayons lumineux qui allaient tout droit, ben, ils vont être courbés pour revenir vers la Terre. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, qu'on appelle l'effet galactique, hein, parce que ça se joue à des échelles galactiques, ici, c'est qu'en fait, les angles sont très faibles, et donc en fait, ça va jouer un rôle comme une sorte de loupe, en fait. Donc l'effet de loupe peut être compris de la manière suivante. On pourrait dire que le rayon lumineux qui aurait dû partir dans l'espace, celui-là et celui-là, qui sont dessinés ici, par exemple, et bien, ils vont être recourbés pour reconverger vers la Terre. Et donc, vous avez, comme une loupe normale, vous n'avez d'avoir que quelques rayons, bien, vous en avez beaucoup plus. Et donc, quand l'alignement est très bon, vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de rayons qui viennent converger vers la Terre. Et quand cet objet se déplace, et bien, progressivement, vous avez de moins en moins de rayons, et après, l'objet, et puis après, au bout d'un moment, vous n'aurez plus que la lumière normale qui vient de l'étoile. Donc si on regarde ça un peu plus en détail, ici vous avez donc l'étoile qui est dans le centre de la galaxie, d'accord ? Là vous avez l'observateur, c'est donc sur la Terre, et de temps en temps vous avez cet objet, maintenant je ne vais plus dire d'objet, je vais carrément dire étoile, hein, c'est vraiment une étoile qui passe dans la ligne de visée, ici, et si on regarde en fonction du temps, cet objet au début il est loin, donc on a l'impression qu'on ne voit que l'étoile, donc elle a une certaine luminosité. Au bout d'un moment, ben, elle va passer devant comme ça, et donc la luminosité, l'effet de loupe sera de plus en plus important, fera converger la lumière vers la Terre, et donc on s'attend à ce que la lumière qu'on reçoit de cette étoile de fond va augmenter jusqu'à un maximum, quand l'alignement sera très bon, le meilleur, d'accord ? Et quand l'objet va continuer à passer, ben, on va retomber la luminosité, va retomber jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à la luminosité de l'étoile. Alors ce qui est intéressant ici, comme vous pouvez le voir, c'est que l'étoile dont le flux est amplifié, dont la lumière est amplifiée, c'est l'étoile qui est là. Si cet objet il est complètement invisible parce que c'est un objet qui est complètement sombre, par exemple une petite étoile, ou si c'était même un objet complètement exotique, je sais pas, un trou noir par exemple, ben, ce n'est pas gênant parce que lui, il n'a qu'une fonction, cet objet, c'est d'être une lentille, c'est-à-dire de faire converger la lumière. Donc cette lumière qui augmente et qui diminue, c'est simplement celle de l'étoile d'arrière-plan qui est observée. Alors où est-ce qu'on va essayer de détecter des planètes ? Eh bien on va détecter des planètes autour de la lentille. Alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire parce qu'on voit le flux de la source. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand cette étoile passe devant, vous allez avoir un effet comme ça de lentille. D'accord ? Mais comme vous avez une petite planète autour, hop, ben vous avez un petit signal supplémentaire qui trahit la présence de la planète. D'accord ? Mais cette lumière-là, c'est vraiment la lumière qui vient de là. D'accord ? C'est le système de la lentille, il se contente de faire converger les rayons, plus ou moins. C'est vraiment comme une loupe. Si on regarde cet autre cas, par exemple, eh bien, on peut imaginer que... Donc on sait que les gros comme ça, plus l'objet est massif, et plus ça dévie, évidemment, et plus ça amplifie. Si on prend un petit objet comme celui-là, ça fera un tout petit pic. D'accord ? On peut imaginer, par exemple, que cet objet, c'est un système planétaire, mais suffisamment distant. Dans un premier temps, l'étoile microlentille passera devant la source, et donc on aura ce premier pic. Et plus tard, on pourrait imaginer que celle-là passe devant et qu'on aura un deuxième pic. Bon, ça, je vous le dis tout de suite, ça n'arrive jamais. Si on n'avait qu'une planète qui passe devant, ça fait un tout petit pic. Et ça va donc être une méthode pour détecter des planètes qui se sont, a priori, séparées de leur étoile. Donc des planètes qui flottent dans l'univers, comme ça, les planètes flottantes, et qui ne sont plus autour d'une étoile. D'accord ? Cette méthode va pouvoir détecter ça. Donc voilà un petit peu les différents cas. Alors, j'avais prévu cette slide. Je ne vais pas la dire en détail, mais c'était pour vous dire que, en fait, quand on a un système planétaire, en réalité, ce qui compte pour comprendre ces déviations, en fait, c'est ce qu'on appelle des caustiques gravitationnelles. Je ne vais pas détailler. Mais en réalité, ça, c'est une carte d'amplification, ça s'appelle. Parce qu'en fait, si vous regardez la source qui est d'arrière-plan, elle se déplace par rapport à la lentille, puisque tout se déplace dans l'univers par rapport à tout. Hein. Eh bien, en fait, ce système de deux objets, vous aurez une planète, une étoile ici, une planète là, eh bien, ça fabrique des sortes de caustiques gravitationnelles, en fait, c'est des lignes imaginaires, mais elles sont prévues par la théorie. Et quand vous avez un mouvement relatif entre la microlentille qui est là et l'étoile, et que par hasard l'étoile va croiser une de ces zones de caustiques gravitationnelles, là, à ce moment-là, vous aurez la déviation que vous observez là-bas. En fait, c'était pour vous dire que souvent, quand on parle de cette méthode, on s'arrête au transparent que j'ai mis avant. Hein, mais c'était pour vous dire qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et qu'en réalité, selon la configuration entre la position et la taille des étoiles et des planètes concernées, ben, vous avez différents types de ces caustiques qui vont à la fin, malheureusement, produire tout un tas de variétés de courbes qui seront compliquées à calculer. Alors, par exemple, ici, j'ai pris une lentille qui est en fait une étoile, pas un système planétaire, mais une étoile binaire, d'accord ? Une étoile binaire comme ça. La courbe en noir, c'est ces fameuses caustiques. Et en bleu, ben, on l'a fixé pour notre repère, on a dit que la source, comme ça, elle bougeait par rapport à cette lentille. D'accord ? Donc, le truc qui est amusant, c'est que ça, ce système qu'on essaie de déterminer, la lentille, c'est une étoile binaire. Hein, ça ne bouge pas, c'est toujours une étoile binaire. Mais si la source, par projection, passe plutôt en bas ou plutôt en haut, eh bien, à chaque fois, vous allez obtenir une courbe d'intensité lumineuse qui sera différente. Donc, par exemple, si vous avez cette courbe, si vous avez cette source qui passe comme ça derrière la lentille binaire selon la trajectoire rouge, eh bien, vous allez obtenir une courbe comme ça. Donc, quand ça traverse ici les caustiques, ça fait deux pics, hein, et ça redescend. Par contre, quand vous regardez, par exemple, la source qui passe en bleu, ben vous allez avoir cette espèce de courbe ici. C'est des courbes qui sont fondamentalement différentes, mais dans tous les cas, le système de la microlentille qui a produit ces courbes, ben c'est le même. Donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas juste en regardant ça, la courbe dire « Ah, c'était évident, c'était une planète, c'était une étoile binaire et des choses comme ça. » Donc il va falloir faire beaucoup de travail pour essayer de voir exactement quelle était la configuration qui a produit votre courbe observée. Peut-être vous avez observé celle-là, mais peut-être vous avez observé celle-là. Dans tous les cas, ce sera le même système. Hein, donc, c'est le genre de problème qui se pose. Alors, pour les observations, quand même, c'est important d'observer. Les observations, en fait, imaginons qu'on observe un événement de microlentille, donc ça, c'est le temps qui s'écoule, ça, c'est des jours, donc 980 jours, 1000 jours, donc là, il s'est écoulé typiquement 20 jours de là à là. Vous avez un événement comme ça, il est en noir, vous avez obtenu ces points avec ce télescope qui est situé au Chili. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de trous dans cette courbe. Et un événement de microlentille, hein, quand il y a une étoile qui passe devant l'OP, on imagine que ça ne doit pas être très courant. Même, on peut dire que ce n'est pas courant du tout, puisqu'en gros, une étoile sur un million, à un moment donné, donne un événement de microlentille. Parce que vous observez dans cette galaxie où il y a beaucoup d'étoiles, mais la probabilité quand même est très faible. Donc, comme ça se produit qu'une fois, ben, il va falloir que vous soyez sûr que vous observiez ça en détail. Et dans ces cas-là, vous allez observer avec plusieurs télescopes situés dans l'hémisphère sud, tout le long, et chaque télescope va couvrir une partie de cette courbe de lumière. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui ne se reproduisent pas, comme les supernovas et des phénomènes comme ça. Hein, ce n'est pas parce que ça ne se reproduit pas que ce n'est pas bien, au contraire. Par contre, il faut assurer une couverture très, très dense. Et aujourd'hui, il y a plein de télescopes. Il y a 3000 microlentilles détectées par an, alors qu'il y a à peine 15 ans, on en détectait à peu près 50 par an. Ça vous donne encore une fois l'explosion du nombre de découvertes pour les méthodes. Donc là, je vais passer une découverte qui était passée un petit peu dans les médias, c'est cette découverte-là, Hoggle 2005 BG386LB. Ça, c'est la première super-Terre, donc plus grosse que la Terre, 5 fois la masse de la Terre. Super-Terre, glacée, hein, donc à plusieurs unités astronomiques de l'étoile, et donc très froide. Donc ça, c'était une découverte de 2005. Là, il y a des systèmes multiplanétaires avec, vous voyez, des courbes vraiment compliquées en fonction de la luminosité, en fonction du temps. Et là, on a deux planètes, eux, et même des systèmes encore plus exotiques où vous avez deux étoiles des courbes complexes aussi, deux étoiles et une planète qui tourne autour d'une des étoiles. Ça, bien sûr, ça, c'est des images faites à la main d'artistes, hein, des vues d'artistes, comme on dit. Si on regarde maintenant, une dernière fois, on regarde la détection dans ce diagramme distance planète, masse de la planète, ben on s'aperçoit qu'elles sont situées dans une sorte dans une sorte d'enveloppe qui est comme ça. Hein, et en fait, on voit que ça permet d'arriver à des planètes relativement peu massives et qui sont situées plutôt loin. Vous vous rappelez que les autres méthodes, souvent, elles donnaient plutôt des planètes par là. Cette méthode va donner des planètes plutôt plus loin. Donc ça va être quelque chose d'assez complémentaire. Et autre chose à propos de cette méthode des microlentilles, c'est que maintenant, là, j'ai tracé la galaxie vue d'en haut. D'accord ? Là, c'est le Soleil, là, c'est le centre galactique. Et on se rend compte que beaucoup de planètes détectées par la méthode des vitesses radiales ou par les transits Kepler, c'est les transits bleus et gris, c'est dans la banlieue proche du Soleil, alors que les microlentilles vont détecter des planètes qui sont vraiment, par constitution de la méthode, qui sont situées bien réparties entre le centre galactique et le Soleil. Donc on va pouvoir comme ça avoir une vision un peu 3D, en restant raisonnable, hein, un peu une vision 3D des propriétés des exoplanètes, éventuellement en fonction de la distance galactocentrique, la distance au centre. Alors juste une petite note, toujours pareil, comme c'est l'anniversaire de la relativité, en 1912, Albert Einstein avait déjà écrit les équations en fait, qui correspondent à cet effet de microlentille. Et finalement, c'est un de ses collègues qui l'a incité à publier en 1936 cet article où il parle de cet effet de microlentille gravitationnelle, mais pour des étoiles dans la galaxie, en fait, pour des étoiles, pas pour des galaxies. Les galaxies, hein, il y a aussi des effets des lentilles gravitationnelles où on voit des galaxies comme ça déformées, hein, mais là, on reste dans une seule galaxie, avec des étoiles. Et donc, en fait, il avait conclu que c'était un effet, probablement un effet intéressant, mais qu'il n'y avait pratiquement aucune chance, enfin très peu de chance de détecter cet effet. No great chance of observing this phenomenon. Et donc il a qualifié finalement que ça resterait quelque chose de très curieux, mais probablement pas observable. Donc aujourd'hui, on en détecte 3000 par an, et on détecte des exoplanètes avec, et tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de repasser un peu dans le passé pour voir combien finalement tous les progrès d'observation aujourd'hui ont été immenses à tel point que des grands visionnaires n'ont pas pu imaginer qu'on pourrait vraiment en faire une méthode d'analyse scientifique, finalement. On pourrait dire ça comme ça. Tu vois, un petit clin d'œil. Donc là, hop, j'ai tout remis dans ce diagramme. Vous voyez que finalement, chaque méthode va essayer d'apporter son grain de sel, son information à différents endroits. C'est un peu le puzzle. Et il faut savoir aussi que toutes les étoiles ne sont pas comme le Soleil. Hein. Le Soleil, c'est une étoile qu'on dit banale, mais elle n'est pas si banale, puisque c'est même pas 10% des étoiles dans la galaxie. Les étoiles les plus nombreuses, c'est les petites étoiles, les naines rouges. Donc en fait, là, il manque quelque chose. Il manque le fait que ces planètes, elles sont certaines fois en orbite autour d'étoiles comme le Soleil, mais beaucoup aussi en orbite autour de plus petites étoiles. D'accord ? Donc là, tout ça, c'est écrasé. On ne voit pas cette troisième dimension. Voilà. Ça, je vais pas, peut-être pas. Donc, juste, voilà. Si maintenant on regarde par rapport à la ligne, vous rappelez la ligne des glaces ? Quand on est trop proche de l'étoile, il fait trop chaud, et quand on s'éloigne, on peut commencer à former des glaces et donc à former des planètes géantes. Donc, en fait, ce diagramme des planètes, on peut très bien non plus le montrer par rapport à la distance exacte de l'étoile ou par rapport à la distance exacte de l'étoile, mais on peut dire que pour toutes les étoiles, on va dire que la ligne des glaces, c'est 1, d'accord ? Et on regarde les planètes si elles sont devant ou derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, la ligne des glaces, elle est à 1, par définition, parce qu'on a construit le diagramme comme ça, donc c'est la distance planète-étoile divisée par la position de la ligne des glaces. Et donc on regarde si les objets sont plutôt loin ou plutôt proches de l'étoile par rapport à cette fameuse ligne des glaces. Et donc on peut faire ça pour les différentes méthodes, vous voyez ? Donc beaucoup reste de ce côté-là de la ligne des glaces. Hop ! Les microlentilles, elles sont complètement à droite, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus loin. Elles regardent des objets qui sont là où on forme les Jupiters, justement. D'accord ? Et si on fait ça, on se rend compte qu'on va, en regardant, donc toujours cette idée de puzzle, en regardant ça, on se rend compte que en mettant dans ce diagramme-là, on va pouvoir dire que si on forme les Jupiters effectivement au-delà de la ligne des glaces, on va essayer de voir si ces planètes sont fréquentes au-delà de la ligne des glaces ou proches de la ligne des glaces. Et ça va nous donner des informations, par exemple, sur les phénomènes de migration planétaire. D'accord ? Donc on peut avoir des informations très intéressantes avec ça. Donc finalement, si on fait la carte postale d'hier, la carte postale d'aujourd'hui, ben, ce qu'on observe, c'est une très grande diversité des systèmes planétaires. Donc là, vous avez des petites orbites avec des planètes géantes, des petites planètes, etc. Et donc, c'est évidemment, c'est quelque part une révolution, puisque ça a renouvelé notre vision des mondes au-delà du système solaire, mais notre propre système solaire aussi, comme je disais tout à l'heure. Alors, combien de temps il me reste, Daniel? Il me reste zéro. Donc, si vous voulez, j'avais prévu un petit peu large. Je vais passer rapidement. Donc, ce qu'on observe essentiellement, vous voyez, on observe des systèmes solaires qui sont très compacts et qui sont situés. Vous voyez l'orbite de Mercure en comparaison. Voilà, ben là, vous avez un système planétaire complet dans l'orbite de Mercure. Ça, c'était pas prévu. Statistiquement, on observe en plus que les petites planètes rocheuses, elles n'aiment pas être toutes seules. Elles aiment bien être souvent beaucoup, 2-4 planètes par système. Ça, c'est très courant. Donc, ça veut dire que les petites planètes, elles sont faciles à former et qu'on en forme plusieurs d'un coup. Par contre, quand vous avez un Jupiter chaud, donc un gros Jupiter qui s'est déplacé, qui est arrivé à une orbite faible, ben, il a tout cassé sur son passage et il ne reste plus que le Jupiter chaud. Donc, ça, c'est des choses très bien, très, très bien comprises. Donc, on détecte des planètes autour d'une des composantes d'une étoile binaire. Donc, vous avez une étoile binaire et une planète autour. Ça, on l'a depuis longtemps. Mais on détecte aussi des planètes qui tournent autour de 2 étoiles. Donc, ça, c'est Star Wars, tout ça, les fameuses doubles étoiles. Ben, on en détecte aujourd'hui. Pas depuis longtemps, depuis 3 ans, mais on en détecte. Inconnues dans le système solaire, les super-terres. Là, vous avez la Terre. Et ben, vous avez des versions super grosses de la Terre, jusqu'à 10 masses terrestres, et en version rocheuse. Donc ça, c'est des choses qui sont inconnues. Et en plus, c'est ce qui est vraiment un petit peu embêtant pour nous, c'est qu'en plus, ces planètes, pour l'instant, c'est celles qu'on estime être les plus nombreuses autour d'étoiles. Et elles n'existent pas dans notre système solaire. Pas de chance. Alors, il fallait vraiment observer ces exoplanètes pour se rendre compte de ça. Alors là, encore plus fort, vous avez des mini-Neptunes. Alors là, c'est des planètes géantes glacées, mais de 2 à 10 fois la masse de la Terre. Vous allez me dire, c'est pareil qu'avant. Eh bien oui, pour une planète, par exemple, de 5 masses terrestres, vous avez une version rocheuse et vous avez aussi une version comme Neptune avec une sorte de planète géante, une atmosphère, de la glace, etc. Pour la même masse. Donc, et ça, c'est vrai pour même des planètes de petite masse, comme quelques fois la masse de la Terre. Donc ça, c'était des choses complètement, inattendues et c'est aussi des découvertes très récentes. Vous avez les super Jupiter, donc la Jupiter là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus gros, jusqu'à 2 à 30 fois la masse de Jupiter. Et vous avez ces espèces de planètes super géantes aussi qui n'existent pas dans le système solaire. Donc tout ça, c'est expliqué. Ben, il y a plein de... Alors là, vous voyez que je fais exprès d'aller vite parce que vous avez tout un tas de scénarios de formation planétaire qui permettent d'expliquer la formation des planètes dans certains cas. Et tout ça, c'est un domaine qui évolue beaucoup. On ne peut pas espérer avoir une seule théorie très simple en disant, comme on pensait être le cas pour le système solaire, qui explique tout. Hein. Par contre, on arrive quand même à voir des grandes lignes et à dire, dans certains cas, ça va être tel scénario de formation, dans certains cas, ça va être tel scénario de formation. D'accord ? Donc là, je vais passer. Alors, parmi les choses amusantes, qu'est-ce qu'on détecte ? Eh bien, on détecte les phases aussi. Alors, Galilée découvrait les phases de Vénus en 1610. Eh bien, avec les planètes avec sa fameuse lumière réfléchie par la planète, ben, on a des observations de ce type-là, où on arrive à détecter la face jour de la planète et la face nuit, et on peut dire que la face jour, il fait 1200 Kelvin, et la face nuit, il fait 1000 Kelvin. Donc on arrive à savoir la température jour et température nuit des exoplanètes. Ça, c'est quand même assez amusant. On arrive à détecter des molécules dans les planètes. Donc là, vous avez l'étoile, vous avez une planète géante qui passe devant l'étoile, qui transite et qui fait une occultation. Bien, si la lumière traverse l'étoile traverse l'atmosphère et vient vers vous, ben, vous aurez de l'absorption des éléments qu'il y a dans l'atmosphère de la planète, qui va absorber certaines lignes spectrales particulières, et donc vous allez détecter des molécules, comme de l'eau, on détecte de l'eau. Alors l'eau, ce n'est pas étonnant, il y en a beaucoup dans l'univers, mais on est en mesure, comme ça, de détecter tout un tas de molécules. Et il n'y a pas beaucoup de cas, pour l'instant, il y en a moins d'une dizaine, mais évidemment, avec le temps, ça va augmenter, on en saura de plus en plus sur la composition de ces atmosphères exoplanétaires. Donc on a détecté aussi, alors je l'avais dit tout à l'heure, des planètes flottantes. Les planètes flottantes, ben, c'est des planètes, a priori, qui flottent dans l'univers. On observe comme ça des planètes qui ne sont pas autour d'une étoile. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elles sont formées directement, comme une petite étoile, mais formée avec une planète? Et bien, on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas former des corps plus gros, plus petits qu'à peu près 6 à 10 fois la masse de Jupiter en faisant des objets des nuages qui s'effondrent et forment des objets comme ça. Ça ne marche pas. Alors, quand vous essayez d'avoir des planètes de la masse de Jupiter, c'est impossible. Donc, ça voudrait dire que c'est des objets qui sont formés dans un système planétaire, comme ça, et qu'ils ont interagi à un moment donné, et qu'il y a une planète qui a été éjectée du système. Et dans ce cas-là, vous vous attendez souvent à ce que les planètes qui restent, notamment planètes géantes, aient des orbites très elliptiques. Et effectivement, on observe beaucoup de systèmes planétaires où on a des orbites très elliptiques. Et ça, c'est probablement un signe qu'il y a des planètes qui ont été éjectées, des planètes géantes qui ont été éjectées. Donc, ce n'est pas quelque chose, évidemment, qui est complètement inattendu. Donc, on essaie de les détecter par imagerie directe, prendre la photo, vous savez, donc une planète jeune, plutôt, voilà, flottante, et par effet de micro-lentille. Et juste un point que je vais mentionner pour la méthode de micro-lentille, c'est que ces événements de micro-lentille, en fait, ils seront de durée extrêmement faible, moins de 2 jours. Donc ça, c'est un événement qui fait moins de 2 jours. Vous voyez la couverture avec toutes les données. Ça dure moins de 2 jours, et bien ça veut dire que l'objet était très peu massif, l'objet qui est passé exactement entre vous et une autre étoile d'arrière-fond, et bien c'est une planète flottante. Si on regarde ce qu'il y a, juste écrit ce qu'il y a en bas, en fait, les études statistiques actuelles nous donnent l'idée qu'il y a peut-être autant de planètes flottantes dans l'univers que d'étoiles, en moyenne, mais bon, ça c'est des choses qui sont à confirmer, parce que ça reste quand même des résultats très récents, mais c'est très probable que ces planètes flottantes soient très, très communes. Ça, c'est très possible parce que éjecter une planète, c'est assez facile dans un système planétaire, en fait. Alors, je vais finir avec les estimations du nombre d'exoplanètes dans la galaxie. Et après, évidemment, regarder un petit peu ce que ça donne pour les problèmes d'habitabilité. Donc, si on regarde les problèmes d'exoplanètes, on aimerait savoir si c'est des proportions entre les grosses et les petites et qu'elles sont plus nombreuses, combien il y en a. Si les systèmes multiplanétaires sont plus ou moins fréquents, hein, ce que toutes les méthodes découvrent, c'est qu'en fait, quand on regarde, là, il y a un diagramme où il y a la masse des exoplanètes et là, il y a leur nombre, hein, pour simplifier. Là, c'est la masse. On se rend compte qu'on obtient des courbes comme ça qui nous disent que plus on va vers des petites masses, c'est-à-dire que plus on va vers là, et bien, vous voyez que plus la courbe monte, comme ça, vers la gauche, ça veut dire que plus vous avez de petites planètes. Donc, l'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que les petites planètes peu massives, elles sont beaucoup plus nombreuses que les planètes géantes. En fait, les planètes Jupiter chaud, dont on avait parlé au début, qu'on détecte à l'appel, on peut dire, à la fin, en fait, on remarque, en fait, l'abondance qu'on déduit après avoir fait tous les calculs de biais, détection, etc., et bien c'est entre 0,5 et 1%. Donc ces Jupiter chauds, heureusement, ils ne sont pas nombreux. S'ils étaient nombreux, ça voudrait dire que la plupart des systèmes ont des Jupiter chauds, et je vous avais dit que quand vous avez un Jupiter chaud, ben, vous n'avez plus aucune autre planète. Donc la probabilité que vous ayez des planètes habitables serait extrêmement faible. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'était très angoissant de découvrir beaucoup de Jupiter chaud au début, parce qu'on s'est dit, si tous les planètes... Nous, on sait bien que Jupiter a migré, et on aurait dit, on est dans un cas particulier où la migration s'est arrêtée et repartie dans l'autre sens. En réalité, ce n'est pas le cas quand même, heureusement. Alors, combien d'exoplanètes ? Donc, je parle des détections par micro-lentille dans ce cas-là. Donc, en moyenne, les études statistiques actuelles montrent qu'en gros, il y a à peu près une planète par étoile dans la galaxie, statistiquement, disons, de façon moyenne. Et donc, si on estime qu'une galaxie comme la Voie lactée, c'est 200 milliards d'étoiles, hein, le bon ordre de grandeur, c'est probablement 100 milliards d'étoiles, c'est-à-dire à peu près une planète par étoile en moyenne, un peu plus, hein. On ne peut pas faire des systèmes planétaires où il y a plus que 10 planètes. D'ailleurs, dans le système solaire, il n'y en a que 8. Dans les exoplanètes, on a détecté des systèmes avec 7 planètes, mais 10, ce n'est pas possible parce que vous avez tout un tas de problèmes qui font que c'est très peu probable. Donc, augmenter d'un ordre de grandeur ce nombre, c'est peu probable. Diminuer d'un ordre de grandeur, c'est aussi pas probable parce qu'on voit qu'on a clairement au moins une planète par étoile. Donc, le bon ordre de grandeur, c'est les fameux 100 milliards. Et on se rend compte que, encore une fois, les planètes les plus petites sont les plus nombreuses, avec ces super-terres-là qui sont les plus nombreuses. Donc là, vous avez une image d'artiste qui montre toutes ces planètes comme ça autour de chaque étoile. Donc quand vous regardez la galaxie, vous pouvez imaginer que chacune des étoiles a, en moyenne, a une planète, un système planétaire, et qu'on est très très loin d'avoir très peu de planètes dans l'univers. Alors là, j'arrive à mes dernières slides. Alors, on ne peut pas finir une présentation sur les exoplanètes sans parler, donner quelques idées sur l'habitabilité. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce diagramme qui nous dit... qui nous donne une sorte de région ici. Donc là, vous avez le Soleil, ici, les planètes du système solaire. Et vous avez une région, ici, ça n'a rien à voir avec la ligne des glaces dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une région dans laquelle, autour du Soleil, vous avez la possibilité que l'eau reste liquide sur une planète. Donc la Terre, heureusement, se trouve dans la zone habitable. Sinon, on aurait changé les modèles, on aurait fait d'autres modèles. Voilà. Bon. Je plaisante à peine. Non. Voilà. Et donc, évidemment, plus votre étoile est petite, et plus on peut être près de l'étoile pour rester au chaud. Voilà. Donc vous avez finalement, en fonction des étoiles, vous avez cette espèce de bande comme ça. Et ça, on va dire que si on découvre des planètes là-dedans, on va dire « Ah, ça y est, on a découvert une planète habitable ». En réalité, c'est plutôt des zones où on peut espérer que l'eau soit liquide. Après, cette zone, elle peut être très étendue ou pas. Alors, par exemple, ici, le diagramme est un peu barbare, je suis désolé, mais ici, vous avez la masse des planètes. Donc là, vous avez les planètes, des grosses planètes géantes, et là, vous avez les petites planètes. D'accord ? Et là, vous avez la période de rotation qui ne nous importe pas beaucoup. Mais toutes ces planètes-là, elles sont situées dans la zone habitable de leur planète. Question, est-ce qu'elles sont habitables ? Premièrement, toutes ces planètes-là que j'ai mises en jaune ici, c'est-à-dire toutes celles qui sont là, c'est des planètes comme Jupiter. Alors, Jupiter, peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est habitable. Moi, je ne pense pas. Chacun se fera son opinion. Donc, si on parlait de planètes habitables, il faudrait déjà parler de celles-ci, celles qui sont petites. Donc, voilà, là, vous avez des possibilités que ces planètes soient habitables d'après le critère ci-dessous. En réalité, bien sûr, l'habitabilité dépend de beaucoup d'autres choses. Par exemple, là, on vient de voir, les planètes dans la zone habitable ne sont pas forcément habitables. Il y a des zones de superhabitabilité où vous avez des effets de serre spéciaux autour des planètes qui peuvent garder une température clémente à la vie, bien sûr. Et en particulier, vous avez les satellites des planètes géantes, comme il y en a autour de Jupiter, qui peuvent être aussi habitables. Donc le critère dont j'ai parlé, il est très relatif finalement. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait prendre en compte pour parler de l'habitabilité. Donc la vie extraterrestre, là, évidemment, ce serait plutôt de la biologie. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de l'astrophysique ? Donc déjà, on sait que l'émergence de la vie, c'est très difficile sur Terre, c'est très compliqué à comprendre sur Terre. Donc il faut rester très modeste quand on parle de l'émergence de la vie sur les exoplanètes. Par contre, les quelques idées qui sont claires, c'est que quand les conditions d'émergence sont réunies, il semble que la vie se développe. Si ce n'était pas le cas, on n'irait pas chercher de la vie sur Mars, par exemple. Mars, possiblement, aurait pu développer de la vie, donc c'est pour ça qu'on va là-bas pour voir. Sur la Terre, ça a bien marché. On sait aussi que si une planète a commencé à développer de la vie et qu'après il y a un cataclysme ou n'importe quoi et que la vie peut se mettre en hibernation, et elle est capable de se mettre en hibernation pendant très longtemps, puisqu'on sur Terre, on a trouvé des bactéries fossiles qui peuvent se réanimer après des temps considérables. Donc la vie, elle peut se redévelopper si les conditions deviennent réhabitables. Donc, ça, c'est un problème intéressant. Et du point de vue de l'étude des exoplanètes, ce que ça nous apprend fondamentalement pour ce problème de penser la vie extraterrestre, c'est que les planètes dans la Voie lactée, c'est vraiment la règle. C'est la règle, c'est pas l'exception. Les systèmes planétaires vraiment existent partout et qu'il y a une extraordinaire diversité de systèmes planétaires et de planètes. Et donc, peut-être que la Terre, c'est un cas dans lequel on a pu développer la vie, mais peut-être qu'il y a plein de types de planètes qui aussi pourraient développer la vie. Et donc, ma conclusion, du point de vue de l'astrophysique, c'est qu'en fait, tout ça, en principe, ces derniers arguments sont un signe très optimiste que peut-être la vie existe ailleurs dans l'univers. Et je m'arrête là. Merci de votre attention.
Merci Arnaud. Vraiment, c'est un sujet qui a explosé en 20 ans. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'avais juste une petite question. Et comment ça se fait qu'on parle toujours de la planète de 1995 et on laisse un peu dans l'ombre celle de 1991? Il y en avait trois d'un coup. Pourquoi? C'est parce que la technique est bizarre, qu'on ne comprend pas
En fait, alors la technique, elle est un peu complexe. Mais en fait, la principale raison, c'est vraiment cette idée de trouver... Alors, pour trouver des planètes autour d'une étoile qui ressemble au Soleil. Ça, c'est vraiment... Alors que donc là, l'étoile, on va dire, l'objet central du système détecté en 92, donc c'est ce fameux pulsar, c'est une étoile à neutrons, c'est-à-dire qu'il y a une étoile avant qui a explosé. Et d'un point de vue recherche d'exoplanètes autour d'étoiles comme on a dans le système solaire, effectivement, c'est... Ça bloque un peu. Alors après, ces étoiles pulsars, il y en a très très peu détectées. Ces planètes autour des pulsars, il y en a très très peu détectées. Donc on n'est pas vraiment en mesure de dire si c'est quelque chose de courant ou pas. Voilà. Donc, c'est, je dirais, mais moi, personnellement, je les inclurais dans, parmi les grandes détections, c'est clair que les planètes, elles existent autour de plein d'objets. Pour moi, ça, c'est vraiment des planètes, donc je les mettrais vraiment comme détection importante avec celle de 1995.
Merci. La plupart des exoplanètes ont été détectées autour des étoiles, donc comme la, enfin, Sol. Alors que beaucoup d'étoiles, par exemple, sont en système binaire. Alors, est-ce que le peu d'exoplanètes détectées autour du système binaire doit au fait de problèmes de technique de détection ou à cause de l'instabilité du système autour d'un système binaire?
Alors, déjà, il y a les systèmes binaires, ils ne concernent pas toutes les étoiles. Quand on va vers les petites étoiles, elles ont tendance plutôt à être seules qu'en système binaire. Après, c'est vrai qu'il y a une fraction des étoiles solaires qui sont effectivement binaires. Donc, on détecte des étoiles autour d'une des composantes des binaires. Voilà. Et effectivement, si on veut faire des statistiques sur le nombre absolu de planètes, il faudra prendre en compte effectivement ce côté... effectivement, étoile binaire. Oui. Mais les planètes, on les détecte partout, en fait. Voilà. Donc, en particulier autour des étoiles binaires. Ça, c'est pas quelque chose de rare du tout. Après, les binaires qui seront problématiques, c'est les binaires qui sont rapprochés, où là, vous aurez du mal à avoir une planète autour d'une des étoiles à cause des problèmes d'instabilité gravitationnelle.
Oui, je voudrais savoir, les planètes flottantes, comment peut-on les détecter puisqu'ils ne sont pas éclairés par une étoile? Alors, c'est uniquement leur rayonnement infrarouge?
Alors, dans le cas de la fameuse imagerie directe, c'est-à-dire on prend la photo, on va observer ces objets effectivement dans l'infrarouge, c'est-à-dire juste le fait qu'ils soient chauds. Et en plus, c'est des objets qui ont quelques millions d'années, donc qui viennent juste vraiment de s'être formés, vraiment, vraiment au début, là. Et donc, ils ont toute cette chaleur accumulée par leur formation. Ça fait beaucoup de chaleur évacuée. Et donc, ils deviennent relativement brillantes dans l'infrarouge. Et donc, on va vraiment détecter cette lumière infrarouge-là. Dans la deuxième méthode, la méthode des micro-lentilles, et ben, en fait, comme je vous l'avais dit, l'objet qui passe devant, la micro-lentille, elle peut être complètement noire. Elle peut très bien ne pas envoyer de flux, mais le seul effet qui nous intéresse, c'est comment elle fait pour courber la lumière vers l'observateur. Et donc une masse planétaire une masse de Jupiter, ça suffit pour courber les rayons et que vous ayez un effet de micro-lentille. Sauf qu'il durera très très peu, il sera seulement de 2 jours au lieu de peut-être 1 mois si ça avait été une étoile. Voilà.
Oui. Je reviens sur votre image, oui, que parmi les dernières, vous avez en fait toute l'évolution de la vie.
Oui.
Je me rappelle je me rappelle plus le nom du physicien qui avait réussi à calculer une probabilité dans la Voie lactée avec justement les exoplanètes, le nombre de planètes, la zone habitable, enfin, etc. Et est-ce que vous avez pu refaire ce calcul des probabilités? Enfin, à l'époque, c'était 1 sur 100 milliards pour nous, et nous, on est bien là 1. Sur les 100 milliards. Donc, ça voulait dire qu'on était les seuls. Mais est-ce que ce calcul, je ne me rappelle plus le nom du physicien qui a fait ça.
Alors, si on veut faire les calculs statistiques, on peut décomposer, alors ça peut-être fait référence à cette fameuse formule, on décompose la probabilité en différents termes. Donc là, en découvrant des exoplanètes, on va typiquement essayer de calculer, par exemple, si on voulait faire ça comme ça, un pourcentage de planètes situées dans la zone habitable. Ça, maintenant, dans des observations, on peut avoir une idée de ce nombre. Après, la question, c'est quelle est la probabilité pour que la vie se développe sur une planète? Et comme pour l'instant, le seul exemple qu'on a, c'est sur la Terre, on ne peut pas donner de probabilité parce qu'on n'a qu'un exemple. Donc, si vous voulez faire ce genre de statistiques, il va falloir faire des hypothèses et là, moi, j'ai un petit problème avec ça. C'est que vous allez dire, bon, ben, la vie, c'est pas courant, donc je vais dire que, imaginons qu'une planète sur 1 million développe la vie. Mais pourquoi vous donnez ce chiffre et pas un autre? Donc il faut faire attention aux extrapolations qu'on peut faire. Voilà, ça, je répondrai ça. Mais en tout cas, il y a certains facteurs qu'on peut maintenant vraiment, qu'on peut bien cerner, c'est ces planètes dans la zone habitable. Voilà.
Je me souviens plus, je crois que c'était pas Sagan qui a fait ça? Non.
Il y a tout un courant de pensée qui s'est développé autour de ça, oui.
Parce qu'il y avait l'émergence de la vie et l'émergence de la vie intelligente. Il y avait deux types de formules.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, pareil.
Les planètes détectées par micro-lentilles gravitationnelles, après, elles sont perdues par la science ou il y en a que vous avez pu étudier deux fois ?
Elles sont perdues pour la science. En fait, les planètes sont perdues pour la science, mais parfois l'étoile autour de laquelle tournait cette planète peut être observée encore après. Mais par contre, la planète elle-même, l'étoile encore, c'est brillant. Donc, si vous avez un effet de micro-lentille, peut-être que l'étoile, la micro-lentille, était peut-être brillante. Donc, vous avez peut-être de la chance quand même de la détecter, même si l'effet principal, c'est dû à l'étoile de fond qui amplifie, dont le flux est amplifié. Mais la planète elle-même, bah, là, vous n'avez aucune chance parce que, comme vous avez vu sur une des diapositives, les planètes qu'on détecte par micro-lentille, elles ne sont pas dans la banlieue solaire, elles sont vraiment à des distances astronomiques, à des dizaines de milliers d'années-lumière de nous. Et là, une planète est plus qu'invisible. Ouais, elle est vraiment invisible. Ce ne sera qu'un phénomène indirect.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des banlieues, enfin des densités d'étoiles telles que finalement les planètes se promènent d'une à l'autre?
Ah oui, c'est pas bête du tout. Hein. C'est pour ça qu'il y a des recherches en particulier de micro-lentilles qui se concentrent, enfin qui se sont concentrées peut-être maintenant, je ne sais plus trop, beaucoup moins, mais sur des amas d'étoiles qui sont formés et pour savoir. Donc si on imaginait que ces statistiques étaient correctes, une planète, une étoile flottante par planète, une étoile flottante par étoile, voilà, merci. Dans ces cas-là, on peut imaginer que si vous avez un amas d'étoiles, ben vous avez à l'intérieur un amas de planètes. Et donc, il est tout à fait possible qu'une planète soit recapturée par une étoile aux échelles de temps galactiques. Oui, c'est tout à fait envisageable.
Un gaz planétaire.
Complètement. Pardon ?
Un gaz planétaire.
Un gaz planétaire, ça ressemblerait à ça.
Une dernière question ?
Dernière question. Est-ce qu'avec Kepler, on a réussi à trouver une planète de taille terrestre, rocheuse, et dans une zone habitable de son étoile?
Alors, on a détecté très proche de la zone habitable, mais pas exactement dans la zone habitable. Telle que définie. Alors après, il y a la zone habitable, je vous ai montré une des définitions, et puis après, il y a des modèles qui l'étendent un petit peu, etc. Donc, il y a toujours un débat pour savoir est-ce que c'est exactement dans la zone habitable ou pas.
Et qui tourne autour de son étoile. Enfin, oui, qui tourne sur elle-même aussi. Qui ne soit pas synchronisée.
Oui. Alors, dans les zones habitables, elles sont suffisamment loin pour que vous n'ayez pas des planètes. Les planètes ne sont pas synchronisées. Hein, les planètes synchronisées, ça va être celles qui tournent, qui montrent toujours la même face à l'étoile, comme la Lune montre la même face à la Terre. Hein. Ben ça, ce sera uniquement les planètes qui sont très, très, très proches, dans ce cas-là.
Donc, on attend cette planète presque une Terre, quoi, bientôt.
Ah oui, les Terres, on en détecte maintenant. Ouais. Après... la zone habitable, voilà, c'est juste une question de probabilité. Un jour, elles tomberont dedans, oui, ça c'est sûr.
Eh bien, merci Arnaud d'avoir brossé cette fresque très complète d'un sujet actuel, très brûlant.